Numéro 2 mondial, Iga Swiatek a elle aussi décroché sa place pour les demi-finales. À suivre, le décryptage de Véronique Rigolet.
Radio G, 101.5 FM. Walking in the midnight
sun. Je suis ouvrière agricole.
Je suis paysagiste.
Je suis soigneuse dans un parc zoologique.
Je suis ouvrier forestier.
Nos conditions de vie et de travail sont dégradées.
Pourtant, en tant que salarié en agriculture,
nous faisons vivre un secteur essentiel pour la population.
Pour gagner des augmentations de salaire.
Pour améliorer mes conditions de travail.
Pour défendre mes droits et en gagner de nouveaux.
Jusqu'au 31 janvier,
aux élections Chambre d'agriculture, je vote CGT.
18h10, 19h, c'est Topette. La quotidienne de Radio G, présentée par Pierre Benoît.
Bienvenue dans Topette, la quotidienne de Radio G qui vous dévoile toutes les actualités locales. Ce soir, c'est moi, Nolwenn, qui prend les rênes de l'émission. Je vais animer l'émission. Alors, j'ai pas choisi le meilleur jour avec ma voix, mais bon, on va faire quand même avec. En début de semaine, on était chez nos copains de Radio Campus pour une émission dédiée à Premier Plan. Mardi, on était avec le CCJC, le Centre Culturel Jean Carmet de Muret-Régnier. Et ce soir, on va parler écologie et eau. On va se pencher plus particulièrement sur un aspect important, je crois, ce sont les travaux de restauration de la continuité écologique sur le département. C'est ça, Pierre Benoît ?
Effectivement, Nolwenn. Bonsoir, Nolwenn, puisque nous serons accompagnés ce soir de Marie-Jo Hamard, la vice-présidente en charge de la transition écologique au département de Maine-et-Loire, et de François Letourmy, technicien rivière et DPF, domaine public fluvial, pour parler de ces fameux travaux de restauration de la continuité écologique sur le département, bien évidemment, c'est-à-dire les actions menées sur les cours d'eau pour qu'ils retrouvent une configuration plus naturelle avec, pour éviter tous les problèmes liés à l'environnement sur les travaux qui ont pu être menés sur les différents cours d'eau au cours des années, des siècles passés.
Et ce soir, on aura aussi la drôle de vie de Léona Graal. Et en fin d'émission, on se quittera avec Tonton Albert et sa bouteille aux trois quarts vide. Et Topette, bah, c'est parti pour ce soir jusqu'à 19h.
18h10, 19h, Topette, avec Pierre Benoît.
Mais avant de démarrer tout ça, on va partir d'abord avec Sarah découvrir le bosquet à deux pas d'Angers.
Salut, c'est Sarah du compte Instagram Mangez-moi. Aujourd'hui, je vous présente un nouvel épisode de ma chronique, le OVO. OVO pour On va où ? Cette fameuse question qui revient systématiquement à chaque fois qu'une envie de convivialité et de bon temps est évoquée. Je vous partage mes bonnes adresses angevines et je vous donne les cartes pour adapter votre choix de lieu en fonction de l'occasion. Alors cette semaine, on va où ?
Bonsoir à tous. Si vous cherchez un restaurant fabuleux dans un cadre exceptionnel, c'est au restaurant Le Bosquet que vous devez réserver. Et évidemment, je ne suis pas à mon coup d'essai là-bas, car j'ai 8 longues années d'entraînement à mon actif pour cet endroit et je peux vous affirmer avec tout le recul nécessaire que c'est un incontournable lorsque vous cherchez à manger bon, beau, local, original, raffiné et généreux. Beaucoup de superlatifs, me direz-vous. Et je vous répondrai que quand on aime, on ne compte pas. Aux portes d'Angers, dans un cadre bucolique hors du temps, Marie et Régis vous accueillent dans leur restaurant-hôtel avec une seule idée en tête, vous faire plaisir. La décoration chaleureuse et cosy vous invite à la dégustation et au voyage avec un arbre trônant au milieu de la salle ou encore une barque suspendue au plafond. Et vous pourrez suivre durant tout le repas la préparation de vos plats grâce à leur cuisine ouverte sur la salle. Lors de mon dernier passage, j'ai testé le menu du jour. Régis et son équipe proposent des plats de saison avec des produits frais et ultra locaux car il va rencontrer chacun de ses producteurs et travaille même main dans la main avec eux pour créer parfois de nouveaux produits. En entrée, velouté chaud de betterave, crème aux chèvres et Saint-Jacques snacké. Réconfortant, surprenant et très fin. À suivre, un plat surprise du chef. Et c'est là que je souligne le fait que c'est une équipe qui veut partager avec vous son amour pour la cuisine et qui veut vous faire plaisir. Risotto de Frigola Sarda à la truffe de Brissac. J'ai eu mon coup de foudre, mon crush de l'année. Le risotto fait à base de ces petites billes de blé moelleuses avec du céleri, un jus de viande et des lamelles de truffe. Mais oh my god, est-ce qu'il est possible d'épouser un plat? Car avec lui, je signe jusqu'à ce que la mort nous sépare. Puis le merlu, coquillage et salicorne, tellement gourmand, la cuisson était maîtrisée et surtout, merci de nous amener de l'iode dans nos assiettes angevines. Bon, on est bolloise ou on l'est pas, hein ? Succulent. Sans oublier le fabuleux dessert de la chef pâtissière Manon, qui marie à la perfection le sucre et l'acidité sur lit de gourmandise avec sa tarte du jour citron-noisette. Un praliné bien riche, une gelée citron sans sucre qui te réveille les papilles et une belle élégance dans la présentation. Toute l'équipe a été incroyablement gentille et aux petits soins avec nous. Car il faut se l'avouer, nous avons fait beaucoup de bruit et nous avons été un peu dissipés. Donc, merci. Merci à l'équipe en cuisine, à l'équipe en salle, à ma mari et à son talentueux mari Régis. Vous me régalez depuis 2015 et je vous suivrai jusqu'au bout du monde. Mais si vous restez au Pont de C, c'est mieux, hein. À faire pour toutes vos occasions, car ici, vous sortez l'estomac plein et surtout le cœur rempli. Cœur avec les mains pour le restaurant Le Bosquet. Le Bosquet, c'est du lundi au samedi, midi et soir, aux deux rues Maurice Berne au Pont de C. Et tous les bons plans resto, c'est sur mon compte Instagram Mangez-moi.
Les podcasts de Sarah, on va où à retrouver dans l'onglet du coup Podcast Plus du site internet de Radio G. Avant d'accueillir nos invités, quelques petites annonces à faire. Il y aura le festival Rêve à Son le 1er février à la Pommeraye. On aura Divafo, No Money, Nerlof, The Last Parade et Addict. On a deux places à gagner sur notre compte Instagram radio-g.fr. Et vous pouvez trouver toutes les informations pratiques sur le site internet rêvasson.fr. Il y aura aussi le festival Les Électriques du 29 au 31 janvier à Cholet. Il y a deux fois cinq places à gagner pour le 31. Il y aura Reste, Papier Tigre et Bon Enfant. Vous pouvez trouver plus d'infos sur le Instagram de Radio G. Et maintenant, on accueille tout de suite nos invités de ce soir.
L'invité de Topette sur Radio G.
Je dirais même les éclectiques, Nolwenn. Mais t'es toute pardonnée, on sait que tu as des petits problèmes de rhume en ce moment. Effectivement, nous sommes avec nos invités maintenant dans Topette ce soir, puisque je suis accompagnée de Marie-Jo Amar. Bonsoir.
Bonsoir.
Vice-présidente en charge de la transition écologique, accompagnée de François, au conseil départemental de Maine-et-Loire, accompagnée de François Letourmy. Bonsoir François.
Bonsoir.
Technicien rivière et DPF, domaine public fluvial. On pourra en parler tout à l'heure sur ce qu'est ce domaine public fluvial justement. Mais avant ça, on va parler des travaux de restauration de la continuité écologique sur le département. Donc les actions qui sont menées sur les cours d'eau pour qu'ils retrouvent une configuration plutôt naturelle. Dans quel but, pourquoi et comment? Des réponses qu'on va donner dans quelques instants dans cette émission. Et puis on pourra aussi parler de la politique globale du département avec vous Marie-Jo Amar vis-à-vis de la protection de l'environnement. Il est question, je crois, d'ENS, d'espace naturel sensible et du plan biodiversité. Mais avant tout ça, François, je me tourne vers vous pour le côté technique. Quels sont les problèmes liés aux cours d'eau? Je crois qu'il y a un historique qui fait que les cours d'eau, pendant tout le 19e siècle et au début du 20e, ont été canalisés et apparemment ça aurait apporté des problèmes. Est-ce qu'on peut avoir un petit historique rapide et puis un aperçu des problèmes qui sont liés aujourd'hui en termes écologiques, environnementaux?
Oui, tout à fait. Alors, faut savoir que les cours d'eau sont aménagés depuis même beaucoup plus longtemps que ça. Hein. Depuis le Moyen-Âge, on a déjà des aménagements assez lourds sur nos rivières. D'une part, pour récupérer l'énergie motrice de l'eau via les moulins, et également pour aménager la navigation. Puisque les barrages permettent de ralentir le courant, de rehausser les hauteurs d'eau, et donc de permettre aux bateaux de naviguer en toute sécurité. C'est le cas sur les rivières qu'on gère, nous, au département, sur le département de Maine-et-Loire, que sont la Mayenne, la Sarthe, l'Oudon, la Maine, qui sont donc des rivières navigables depuis très longtemps, sur lesquelles on a donc des barrages et des écluses. Donc, ces barrages, ces écluses permettent le passage des bateaux. Par contre, ils vont entraver le passage des poissons, ce qui va être problématique pour leur survie.
C'est vrai qu'aujourd'hui, la navigation fluviale est beaucoup moins importante. Hein. L'économie, on a les poids lourds, on a les trains qui transportent, l'avion aussi. Donc, on est forcément face à de nouvelles problématiques. Plus récemment, il était question du remembrement aussi. Je crois que les cours d'eau ont été un petit peu modifiés à cette occasion, à la sortie de la Deuxième Guerre mondiale. Ça aussi, ça a eu un impact sur cette continuité écologique ou pas, François ?
Oui, ça a également eu un impact. Alors, le premier impact de ce remembrement, ça a été de tirer ces cours d'eau au droit, de les approfondir, donc d'appauvrir en fait la qualité des milieux naturels qu'ils proposent pour les espèces, qui peuvent servir de support pour leur reproduction, notamment de frayères. Donc on a détruit un certain nombre de frayères par ces opérations. Et puis, donc on a appauvri globalement la biodiversité de ces cours d'eau.
Et est-ce qu'on a des problèmes qui sont systématiques justement dans les cours d'eau qu'on retrouve à chaque fois? Je pense aux épis de Loire qui ont été justement là pour accélérer le cours d'eau au centre, qui ont posé des problèmes en termes de reproduction, d'épuisement des poissons aussi qui avaient plus de mal à remonter les flux. Est-ce que c'est des choses qu'on va retrouver systématiquement sur tous les cours d'eau? Est-ce que les problématiques sont les mêmes, François?
Et non, ça va être très différent d'un cours d'eau à l'autre. Alors là, effectivement, tu as évoqué les épis en Loire, donc la Loire est un fleuve très particulier, très large, avec beaucoup de puissance, donc la seule façon dont on a pu le rendre navigable, c'était de créer ces épis qui permettaient effectivement d'approfondir le chenal. Sur la Maine, la Mayenne par exemple, on ne va pas du tout trouver ces épis, puisque ces rivières étaient plus calmes, et donc on a pu aménager des barrages. Et sur les tout petits ruisseaux, évidemment, ces ruisseaux ne sont pas navigables, donc on va plutôt avoir un problème qui va être lié à l'agriculture. On va chercher à drainer les terrains pour les rendre cultivables, et c'est à ce titre-là qu'on va endommager le cours d'eau. Donc c'est vraiment des problématiques très particulières qui dépendent également de la région dans laquelle on se trouve, parce qu'évidemment sur des régions de plaine comme la nôtre, on va avoir des problématiques très distinctes de celles qu'on peut retrouver en montagne.
Alors on n'imagine pas à quel point il y a un grand nombre de cours d'eau dans le département. Là on l'a vu avec les crues, des fois on passe sur une route et on voit des inondations, on ne savait même pas qu'il y avait un cours d'eau qui passait à côté. On va parler des travaux, des choses qui sont mises en place pour essayer de retrouver le cours naturel et puis quel impact positif on peut déjà constater. Mais avant tout ça, Madame Amar, l'état des lieux, on parlait du DPF, le domaine public fluvial, et puis la carte en Maine-et-Loire des cours d'eau, elle est très étendue. On est quand même une région, enfin un département très fluvial finalement, on a quand même trois cours d'eau qui passent.
Alors, effectivement, on est en Maine-et-Loire, un des départements les plus irrigués de France. Alors, on a déjà la Loire, hein, ce majestueux fleuve, on va dire. Et puis, en même temps, donc, le domaine public fluvial, comme vient de le souligner François, c'est effectivement la Mayenne, la Sarthe, le Loir, une partie de Loudon et le bassin de la Maine avec les basses vallées angevines, etc. Et l'ensemble, alors le domaine public fluvial, c'est 250 km de rivière, et l'ensemble des cours d'eau sur le Maine-et-Loire, on atteint, enfin les cours d'eau, rivières, petits ruisseaux, on atteint à peu près les 8000 km. Donc c'est vraiment un territoire très très irrigué, et donc on se doit, là où on est responsable de la gestion, on se doit effectivement de mettre en œuvre cette loi qui invite, et en tout cas qui nous entraîne dans des aménagements liés à la continuité écologique. Donc c'est vraiment sur cette partie-là que l'on travaille aussi au niveau du département, mais sans pour autant, je dirais, privilégier tel ou tel type d'activité. On sait que sur les rivières, on a une multiplicité d'usages. Donc, il faut arriver à trouver un compromis qui permette à la fois de redonner, je dirais, toute sa richesse environnementale, mais en tout cas de biodiversité à la rivière, sans pour autant compromettre l'ensemble des usages. Donc il faut trouver effectivement des compromis. Donc il y a plusieurs types d'aménagements qui peuvent se faire. Et puis je pense qu'au travers de tout ça, effectivement, et ça a été dit, l'objectif, que ce soit pour les rivières dont le département est responsable, ou pour d'autres donc qui sont en fait à la charge des syndicats de bassins de rivières. Hein, on a différents syndicats de bassins sur l'ensemble du département, y compris en lien avec les départements limitrophes, parce que l'eau n'a pas de frontières. Là aussi, il y a des aménagements qui sont engagés sur les rivières, le reméandrage, enfin voilà. Mais aussi replanter, avoir une ripisylve beaucoup plus abondante, mieux gérée. Donc on est vraiment sur une démarche qui est globale au niveau du département avec l'ensemble des acteurs. Et dans ce cadre-là, on met en place ce qu'on appelle des contrats territoriaux eau, en lien à la fois avec la région, mais aussi les acteurs dont je vous parlais, que ce soit les syndicats de bassin, les départements, mais également avec les associations environnementales qui aussi viennent agir sur un certain nombre d'actions qui sont proposées, et puis bien sûr les collectivités locales au travers des communautés de communes et des communes. Donc c'est vraiment une démarche qui est globale au niveau de l'entretien des rivières, tout en associant, comme je vous disais, l'ensemble des usagers pour trouver, je dirais, un respect des usages et ne pas compromettre complètement certains usages qui pourraient être, bon, la pêche dans certains cas peut-être, mais ça peut être aussi du sport nature. On a aussi les moulins, on a aussi l'agriculture, voilà, et la navigation. Enfin, il faut trouver cet équilibre entre l'ensemble des actions qui sont conduites.
Oui, finalement, même si ce sont plus des moyens de communication comme ça a pu l'être il y a quelques siècles, ça reste quand même un gros sujet vu le nombre de kilomètres en plus que dont le département a la charge. François, d'un point de vue technique, comment ça marche? Comment on restaure le cours naturel des choses? C'est un gros chantier? On casse des choses? On laisse faire? Comment ça marche?
Alors, il y a toute une diversité d'actions qui existent. Nous, sur le domaine public fluvial, les principales actions que l'on mène pour les principaux travaux écologiques que l'on mène, ce sont vraiment les travaux de restauration de la continuité écologique. Du fait qu'on a justement ces barrages qui entravent la circulation des poissons et des sédiments. Donc on se doit, nous, d'aménager ces barrages pour qu'ils puissent nous permettre la libre circulation des poissons et des sédiments. Donc c'est une obligation réglementaire à laquelle on doit répondre. Et donc il existe plusieurs solutions pour cela. La première, pour nous, elle n'était pas envisageable, c'est la suppression simple de l'ouvrage, mais étant donné le fait qu'il y a différents usages tels que la navigation, les moulins...
Ça aurait pénalisé un certain public ou un certain usage, quoi.
C'est ça. Donc nous, on ne pouvait pas se permettre ce choix-là. Donc il restait deux autres solutions. C'était d'une part, faire des rivières de contournement. Donc là, en fait, on va créer de toutes pièces une rivière qui va contourner le barrage existant. Et en fait, on va réduire la chute d'eau qu'il y a sur le barrage en plusieurs petites chutes d'eau au sein de cette rivière. Des chutes d'eau qui vont être franchissables par les poissons que l'on cible. Et l'autre solution, c'est de créer vraiment une passe à poissons en génie civil, en béton, qu'on va installer sur le barrage même. Donc souvent, ça correspond tout simplement à une pente dans laquelle on vient mettre des gros blocs, mais en béton, qui vont en fait réduire les vitesses d'écoulement et dans lesquelles les poissons vont pouvoir se frayer un chemin pour passer de l'autre côté.
Et tout ça, on va continuer à en parler. On va même pouvoir citer des exemples concrets, des choses qui ont déjà été réalisées ou des chantiers qui vont pouvoir peut-être arriver en 2025. Mais avant tout ça, Nolwenn, on fait une pause musicale.
Exactement, on va écouter Paye-moi de Odor et Monarch.
Au mic. Hey. Qu'est-ce que je dis au mic? Yeah. Paye-moi, paye-moi, paye-moi. Pas les couilles des likes. Je ne fais pas pour les Nike. Tant que ça tue au mic, hey. Je détruis l'open mic. T'es enfoncé contre la puits d'être. Ça fait vroom vroom comme dans Need for Speed. Fusil de chasse à la ceinture. Je bip bip à tous les portiques.
On y va.
Flingue la concu, c'est une battue. On te laisse en rien, j'en battue. Le prof m'a dit que j'ai des lacunes. J'ai pas fait bac plus, je bouche et sa pute. Topette à plus, c'est pas les steaks. Moi j'ai les champs dans les veines. On lâche un tango dans ta caisse. On va dégueulasser ta benne. Castagne, tienne le mal est fait. Chauffe comment ils sont faibles. Chauffe comment ils sont vain. J'claque des culs au mic. Qu'est-ce que j'tue au mic? Paye-moi, paye-moi, paye-moi. Bas les couilles des likes. J'le fais pas pour les Nike. Tant que ça tue au mic, j'détruis l'open mic. J'claque des culs au mic. Qu'est-ce que j'tue au mic? Paye-moi, paye-moi, paye-moi. Bas les couilles des likes. J'le fais pas pour les Nike. Tant que ça tue au mic, j'détruis l'open mic.
On écoutait Paye-moi de Odor et Monarch sur le 101.5 FM et on retourne avec nos invités de ce soir, Marie-Jo Amar, vice-présidente en charge de la transition écologique, et François Lamouti, technicien rivière et DPF.
Effectivement, Nolwenn. Alors j'ai encore plein de questions à poser. Il y a des questions qui ont émergé même pendant la pause musicale, puisque effectivement, François, tu parlais de sédiments. Peut-être qu'on peut juste rappeler ce que sont les sédiments pour les personnes qui ne maîtrisent pas trop les termes techniques, on va dire.
Ouais, donc les sédiments. Un cours d'eau, ce n'est pas uniquement un flux d'eau. Hein, c'est également tout ce que la rivière va charrier, que ce soit des graviers, des vases, du sable. Et donc ça peut paraître anodin, mais en fait, c'est très important que ces sédiments puissent circuler librement. Puisque s'ils sont bloqués, notamment par un très gros ouvrage, par exemple un très gros barrage, ça va déséquilibrer l'île de la rivière, qui va pouvoir se recharger en sédiments en aval et qui va s'inciser, c'est-à-dire s'approfondir, s'éroder en fait sur la partie aval. C'est ce qui est arrivé notamment sur la Loire. Hein, il y a eu des cas très connus, parce que dans le temps en fait on extrayait le sable de la Loire pour les constructions de maisons notamment, et en fait en faisant ça, ça engendrait le déchaussement du pont Wilson à Tours. Du fait que la Loire s'est enfoncée et ça a déstabilisé les fondations du pont.
Oui, donc effectivement là c'est des conséquences un peu plus importantes. On a parlé donc des rivières de contournement, des passes à poissons, tout ça forcément ça engendre de l'argent, Madame Amar. Finalement, quel est l'intérêt pour le département aussi d'avoir ce sujet à cœur au-delà du fait d'entretenir et tout ça, d'avoir cet aspect, cette dimension environnementale. J'imagine qu'il doit y avoir aussi des conséquences positives derrière vis-à-vis de tout ça.
Alors effectivement, vous le disiez tout à l'heure, on est là dans le respect de la loi, mais en même temps, l'implication du département va bien au-delà effectivement que de répondre à une réglementation. L'objectif, c'est de garder cette richesse environnementale et de biodiversité que l'on peut avoir le long des cours d'eau, mais dans le cours d'eau, au travers des espèces au niveau piscicole, mais aussi de l'ensemble des autres espèces qui sont là et qui vivent dans l'eau ou au bord de l'eau, et puis aussi tout ce qui concerne les plantes. Donc on est vraiment là sur à la fois un aspect effectivement de paysage sans doute, de qualité de l'eau, parce que ça participe à la qualité de l'eau, et en même temps de faire en sorte d'offrir aussi aux habitants de notre département, je dirais un environnement qui soit le plus sain possible et le plus riche possible dans sa diversité. Et donc là on œuvre sur cette partie au niveau de l'eau, mais aussi sur tout ce qui concerne la biodiversité d'une manière plus générale. Enfin voilà, mais c'est vrai que au niveau de l'eau, on a aussi ce souci de pouvoir répondre à la réglementation tout en essayant, comme je disais tout à l'heure, de répondre aux usages, mais aussi de ne pas déstabiliser ou en tout cas de fragiliser les ouvrages qui existent déjà. Parce que c'est vrai, ça peut être vrai pour des ponts, mais c'est vrai aussi pour des moulins. Donc il faut vraiment qu'on trouve ces seuils d'équilibre. Et puis dans l'aménagement, on a vu, alors là on a effectivement, on a une abondance, je dirais, en termes de pluviométrie, mais lorsqu'on est confronté à des périodes plus sèches, si le cours d'eau est... Enfin, s'il n'y a plus aucun obstacle, ou en tout cas plus rien qui ralentit le cours d'eau et le cycle de l'eau, on va très vite vers un assèchement, ce qui peut provoquer, je dirais là, des effets très négatifs sur cet environnement de la rivière, au travers des espèces aussi de poissons, etc., ou les autres espèces qui se retrouvent face à un milieu complètement, je dirais, hostile à leur propre vie, quoi.
Par rapport à ce point du coup de la continuité écologique, il y a aussi d'autres composantes, parce que du coup vous ne pouvez pas tout maîtriser. On évoquait hors antenne rapidement la pollution. Alors ça c'est quelque chose que vous ne maîtrisez pas forcément, puisque l'agriculture peut-être y participe, l'activité humaine au sens large. Du coup c'est aussi une mission qui peut être transversale. Est-ce que on essaye d'éduquer d'une certaine façon, de communiquer avec les autres acteurs qui peuvent avoir une influence sur cette continuité écologique?
Alors effectivement, dans toutes les démarches qui sont engagées sur la gestion des cours d'eau, quand je disais les syndicats d'eau sont associés, les agriculteurs sont forcément associés à toutes ces démarches et font partie. Vous avez des représentants dans tous les syndicats d'eau représentant les agriculteurs. Donc effectivement, c'est pas l'affaire que de telle ou telle je dirais catégorie, ou en tout cas de responsabilité pour telle collectivité ou telle association. On est vraiment dans une responsabilité collective de la qualité de l'eau que l'on propose pour après bah, constituer aussi la ressource par rapport à l'eau potable. Donc là, il est important de pouvoir travailler, je dirais, de façon collective, en collaboration les uns avec les autres, et forcément qu'il y a des efforts à faire, et on le voit aussi où lorsqu'on va encore un peu plus loin, si je parlais de l'eau potable, mais en tout cas sur les captages prioritaires, où là, il y a des obligations très très précises à respecter, et notamment en termes d'utilisation de pesticides ou autres intrants en termes d'engrais, quoi.
François, il y a une solution pour chaque cas de figure. On arrive toujours à concilier techniquement les différents usages, en fonction, là on parlait de rivières de contournement, de passes à poissons. On peut s'adapter un petit peu à toutes les situations pour garantir cette continuité écologique, justement.
On peut trouver des solutions, ouais, à toutes les problématiques, hein, pour vous dire, c'est des cas qui se présentent pas du tout à nous, mais en montagne, sur des très gros barrages qui peuvent faire jusqu'à 10-15 mètres de haut, on va jusqu'à aménager des ascenseurs à poissons. Donc, il existe des solutions à tous les problèmes techniques. Après, évidemment, c'est toujours un compromis, hein. Quand on va faire typiquement un ascenseur à poissons, évidemment, l'efficacité du dispositif est généralement pas très bonne. Donc, voilà, l'idée, c'est de trouver le meilleur gain écologique possible dans la solution qu'on va apporter par rapport aux usages qui sont existants.
Voilà, donc on peut toujours plus ou moins s'adapter. Madame Amar, une dernière question, on va en avoir d'autres après, mais avant de passer à la chronique de Léona Graal. ENS, plan biodiversité, ça ce sont des choses ambitieuses aussi qui vont au-delà de cette continuité écologique, qui participent aussi à cette action transversale pour l'environnement en Maine-et-Loire.
Absolument, absolument. Effectivement, le département de Maine-et-Loire compte 89 espaces naturels sensibles.
ENS donc.
ENS, donc ce sont des sites qui ont été... identifié après un travail de partenaires, hein, spécialisés sur toutes ces questions de biodiversité, de richesse des milieux, etc., y compris bien sûr avec les élus. Et donc sur le territoire de notre département, c'est 89 espaces naturels sensibles. Alors qui peuvent être effectivement autour de cours d'eau, mais ça peut être aussi ça peut être des espaces boisés, ça peut être aussi des landes, ça peut être des prairies. Enfin voilà, on a aussi des parties de un peu rocheuses comme au niveau de Bushman, la pointe de Bushman. Enfin voilà, il y a une diversité dans les paysages et donc une richesse en termes de faune et de flore. Et donc des diagnostics ont été faits sur l'ensemble des sites pour pouvoir les classer, mais ensuite et on propose de pouvoir accompagner des actions pour valoriser, mais en même temps pour préserver ces sites qui ont une vraie richesse sur le plan biodiversité. Et donc, voilà, les actions se déclinent dans le cadre d'un plan de gestion. Et donc, nous, au niveau du département, on a mis en place un plan, de valorisation des espaces naturels sensibles et de la biodiversité. C'est le troisième plan que l'on va lead sur 5 ans, hein, puisque celui-ci va jusqu'en 2027. Mais en même temps, ce qui est important, c'est de pouvoir effectivement sensibiliser tous les partenaires. Alors, l'idée, c'est préserver, c'est de mettre en place des actions pour sensibiliser la population qui est invitée à venir découvrir, mais avec effectivement en respectant aussi, des espaces de promenade ou en tout cas des sentiers qui sont définis. On peut pas aller partout, sinon on finit par piétiner, comme sur les côtes. Absolument, et puis comme sur les côtes. Et donc là, ça va complètement à l'encontre des effets qui sont recherchés. Et puis en même temps, de maintenir ces espaces naturels sensibles dans leur milieu, environnant, c'est-à-dire ne pas les sanctuariser, mais faire en sorte que les activités qui sont autour puissent continuer, puissent s'imbriquer et en tout cas s'enrichir les unes aux autres en préservant ces espaces naturels sensibles. Et le département, alors ces espaces naturels sensibles peuvent être propriété de collectivités, propriété commune, etc., mais aussi de particuliers, de syndicats, d'associations. Et le département est propriétaire de 3 espaces naturels sensibles sur son territoire, que sont le parc au niveau de l'île Briand, mais aussi le Plessis-Massé et puis l'espace naturel sensible de la forêt de Boudré. Donc voilà, ce sont trois sites assez emblématiques, avec des missions un peu différentes, mais qui sont à la charge directe du département.
Et justement, Emmanuel Dupont, le directeur du château du Plessis-Massé, était venu à ce micro il y a quelques temps en parler de cette ENS au Plessis-Massé. On continue avec vous, Marie-Jo Amar, vice-présidente en charge de la transition écologique au département de Maine-et-Loire, et François Letourmy, technicien rivière et domaine public fluvial. Mais avant tout ça, Nolan, on rigole un peu, je crois.
Exactement, on va écouter La drôle de vie de Léo Nagral.
La drôle de vie, la drôle de vie, la drôle de vie.
Bonsoir à toutes et à toutes. Ce soir, nous recevons la belle...
Doucement sur les compliments.
Je veux dire la prodigieuse...
Non, t'en fais trop, là.
La grande...
N'exagère pas.
La chanteuse...
Oh, là, c'est beaucoup trop.
La femme...
Diminue.
La...
Allez !
L'alcoolique.
Voilà, parfait.
Édith Piaf, bonsoir. Bienvenue parmi nous. Oh, mais c'est moi qui vous remercie.
Tu t'es trompé d'invité, c'est pas Piaf, c'est un Piaf.
C'est pas Piaf, c'est un Piaf, donc c'est bien Piaf.
Je te dis que c'est pas Piaf, c'est juste un Piaf.
Bah, si c'est un Piaf, c'est bien Piaf. Ne me dis pas que c'est pas Piaf si c'est Piaf.
C'est pas la Piaf, c'est seulement un Piaf.
Bah alors, si c'est un Piaf, c'est bien Piaf, c'est Piaf, c'est Piaf, c'est Piaf, c'est Piaf.
Crétin, c'est un oiseau, c'est pas la chanteuse.
Oh oui, oh pardon, excusez-moi, chers téléspectateurs, nous accueillons ce soir non pas l'oiseau, mais bien l'être humain de sexe féminin.
Parfait la description.
Madame Édith Piaf.
Salut mon petit moineau, comment ça va?
Oh. Merde!
Oh, Madame Piaf, tout va bien? Qu'est-ce qui s'est passé?
Bah, tu vois bien, j'ai trébuché! Piaf! Je me suis cassé la gueule!
Vous avez encore trop forcé sur la boisson!
Mais pas du tout!
Ah ouais? Bah, tenez, on va mesurer votre alcoolémie!
Hein?
Allez-y, soufflez dans cet éthylotest, vous allez voir!
Oh, tu m'emmerdes!
Ah, vous voyez, vous êtes tellement imbibé qu'il a explosé!
Ah, il est juste foutu, ton truc!
Bon, alors, Madame Piaf, première question.
Ouais?
Votre chanson emblématique, Non, je ne regrette rien, a marqué les esprits.
Avant?
Mais n'y a-t-il pas ne serait-ce qu'une seule chose que vous regrettez aujourd'hui?
Ah bah si, là, je commence à regretter les 3 bouteilles de rosé que je me suis enfilé avant l'émission.
Oui, non mais...
Bah alors, mon petit sucre, qu'est-ce qui t'arrive? T'as perdu ta langue ou quoi?
Edith.
Non, Edith.
Oui, Edith. Ça vous ennuierait d'arrêter de me parler comme si j'étais un gamin? Avec votre accent ridicule, là, ça m'insupporte.
Oh, écoute, mon petit moineau, c'est l'accent de Paris, hein, l'accent de la rue,
oui.
L'accent de Paris dans les rues de Paris,
oui, je
l'accent
sais, mais...
des rues de Paris dans les rues de Paris,
oui.
L'accent des rues de parents,
oui,
dans les rues de Paris.
Oui, oui, mais c'est agaçant. Vous allez pas me dire que tout le monde parle comme ça chez vous.
Mais bien sûr que non, il est con celui-là. Adring, adring, adring. Attends, bouge pas, il y a mon téléphone qui sonne.
Je vous en prie.
Allô?
Oui, allô, maman, c'est moi.
Oh putain, v'là l'autre môme. Qu'est-ce qu'il y a, fiston?
Je voulais savoir quand est-ce que tu rentrais à la maison.
T'es dit que j'avais une interview. Ça t'arrive d'ouvrir tes cages à miel quand je te parle, petit morveux?
Ouais, mais moi, je fais comment pour le dîner? Y'a plus rien à bouffer ici, bordel.
Eh ben, regarde dans le frigo, il doit rester un bocal de cornichon, il me fait pas chier.
Ah oh, bah super, merci, maman.
Allez, bisous, moi, moi.
Moi, moi.
Et claque. Allez, gosse, je te jure.
Vos chansons parlent d'amour, de passion, de douleur.
Ouais.
Quel conseil donneriez-vous à un jeune artiste?
Eh ben, je lui dirais...
Oui?
Hey!
Très bon conseil, merci. Si vous pouviez juste vous éloigner un peu de mon visage pour répondre à la prochaine question, parce que là, votre haleine va m'asphyxier.
Oh, excuse-moi.
Alors, que pensez-vous de la musique actuelle?
Oh, ça me dégoûte.
Moi aussi.
Aujourd'hui, la musique, ça ressemble plus à rien, c'est devenu tout électronique.
Je suis bien d'accord. Vous avez vu ces DJ avec tous leurs boutons, là?
Oh, m'en parle pas.
Je vous jure.
D'ailleurs, faudrait peut-être leur dire qu'il existe des produits contre l'acné.
C'est vrai.
La drôle de vie.
Vous pourrez retrouver tous les podcasts de Léo Nagral dans l'onglet Podcast Plus du site internet de Radio G. Et nous, on continue à parler écologie et cours d'eau sur le 101.5 FM.
Topette, avec Pierre Benoît, sur Radio G.
Effectivement, Nolwenn, on a toujours les pieds dans l'eau, mais ça n'a rien à voir avec les crues. C'est parce qu'on parle de la continuité écologique des cours d'eau dans le département de Maine-et-Loire. On est toujours avec Marie-Jo Amar, la vice-présidente en charge de la transition écologique au département, et François Letourmy, technicien rivière et DPF. Vous savez ce que c'est maintenant si vous avez écouté l'émission depuis le début. On va laisser de côté un petit peu la politique et le côté technique, mais on va plutôt partir en poésie, voilà, on va se faire plaisir. François, j'avais envie de poser une question sur le cours d'eau. Qu'est-ce que ça évoque? Parce que on peut se promener, on peut se balader dessus, on parlait des usages et tout ça. Est-ce que toi, il y a un souvenir particulier, un plaisir que tu as à te retrouver auprès d'un cours d'eau, à voir un petit poisson sauter, par exemple, visuellement, les odeurs aussi. Il y a le printemps qui va arriver. Il va arriver un jour.
Enfin, moi, j'en ai une multitude. Hein. J'adore être au bord de l'eau. C'est pourquoi je fais ce métier-là aujourd'hui. Donc, en toute saison d'ailleurs, hein, pas uniquement au printemps ou l'été, même là en ce moment, en hiver, on a la chance, nous, sur ces basses vallées angevines, d'avoir des crues qui sont magnifiques. Donc se balader en canoë sur ces paysages inondés, je trouve ça vraiment incroyable. C'est vraiment le temps qui s'arrête et puis on redécouvre en fait des paysages qui nous sont normalement familiers. Là, on redécouvre tout sous l'eau et avec toutes les espèces d'oiseaux, de mammifères qui vont se retrouver sur des petits espaces confinés. C'est vraiment un temps pour l'observation, un temps pour soi.
Madame Amar, aujourd'hui l'eau, on la voit que quoi, elle nous pose problème au niveau des cours d'eau, quand ça déborde trop souvent. C'est un petit peu le propre de l'urbanisme en France. Alors ici à Angers, on sait qu'il y a les voies sur berge qui ont coupé l'accès à la rivière, mais c'est assez vu aussi à Lyon et dans beaucoup d'autres villes de France, peu importe les tailles. Aujourd'hui, on a tendance quand même à vouloir se réconcilier avec les cours d'eau. Comment expliquer ça? C'est un besoin de se reconnecter. L'environnement, c'est pas juste faire beau sur le papier, c'est aussi porter des valeurs et puis avoir besoin de ça.
Je crois effectivement que des aménagements ont sans doute été nécessaires à une certaine époque, mais en même temps on a une évolution à la fois dans les activités et à la fois dans la recherche de chaque individu pour retrouver un peu d'espace naturel, d'être en contact avec la nature. Et puis pas seulement, on a aussi à repenser, je dirais, les aménagements qui ont été faits en fonction des évolutions climatiques. Parce qu'on voit bien aujourd'hui qu'on a eu une pluviométrie particulièrement abondante puisque ça générait des crues, mais on peut se retrouver aussi face à des enjeux de manque d'eau. Et donc, par rapport à ça, il nous faut sans doute se réapproprier davantage la rivière, le cours d'eau, le fleuve, enfin, parce que derrière, des aménagements sont peut-être venus contrarier effectivement le cycle normal de l'eau. Et c'est dans cet état d'esprit-là aussi qu'au niveau du département, en lien avec les services de l'État, puisque ça avait été une proposition aussi de Monsieur le Préfet, qu'a été engagé un schéma de la gestion de la ressource en eau. Et vous le disiez très justement tout à l'heure, l'eau, bah, il faut peut-être pas qu'on attende que soit on en a plus ou soit on en a trop pour pouvoir y penser, quoi, ou en tout cas se dire qu'est-ce que je peux faire. Et donc dans ce cadre-là, et d'ailleurs y compris dans le plan de gestion au niveau de la biodiversité, on est en train de repenser, mais d'une manière globale, hein, c'est pas seulement le département, mais c'est les collectivités, repenser les aménagements qui ont été faits, refaire parfois, reprendre complètement certains aménagements pour essayer de les repaysager, enlever peut-être un peu trop de bitume, de béton qui a été apporté, pour essayer aussi d'apaiser, parce qu'on sait que des aménagements paysagers ramènent aussi un peu de fraîcheur. Et donc dans ces périodes de canicule qu'on a connues, l'individu, l'habitant, l'humain recherche aussi des lieux de un peu plus de sérénité ou en tout cas moins chaud et plus adapté à son ressenti, quoi.
Donc finalement, on comprend bien à travers vos paroles que la question de la transition écologique, ce n'est pas que c'est très transversal, puisque du coup, bah voilà, il y a la chaleur, donc ça nécessite aussi il y a les poissons, mais il n'y a pas que les poissons, les cours d'eau. Il faut repenser finalement de manière globale, et justement les actions globales, c'est un petit peu ce que fait le conseil départemental. Alors on va pas pouvoir, l'émission va toucher à sa fin, parler de tout, mais peut-être qu'il y a des infos utiles, des gestes au quotidien, François, qu'on peut avoir en tête quand on se promène auprès d'un cours d'eau. Alors maintenant, on jette plus de papier dans la nature. Heureusement, les mentalités ont évolué, mais peut-être qu'il y a encore des choses comme ça qu'on peut garder à l'esprit quand on se promène près de l'eau, pour changer un petit peu notre rapport à ces cours d'eau qu'on aperçoit.
Quand on se promène près de l'eau, l'essentiel c'est ça, hein, c'est surtout de faire attention à ses déchets, essayer de limiter au minimum aussi la faune quand on se promène, en évitant de faire trop de bruit, en évitant de laisser des chiens courir sur des animaux, par exemple, quand on balade son chien. Donc c'est des réflexes comme ça, d'essayer de se faire en fait tout petit et de ne pas prendre plus de place que les autres animaux en fait avec lesquels on partage ces beaux milieux.
des propos hautement philosophiques. François, merci. Technicien rivière et DPFE, domaine pardon public fluvial au conseil départemental de Maine-et-Loire, bien évidemment. Marie-Jo Hamard, concernant les actions, le plan global pour l'environnement au département, des actualités qui pourraient concerner peut-être le grand public, là, qui vont arriver courant 2025, des actions de sensibilisation ou retrouver ces informations. Il y a le site internet qui existe où on peut découvrir ce qui est fait justement à l'échelle du 49.
Alors effectivement, les informations, on les a par le site du département. Mais ce que je peux malgré tout inviter, enfin je peux inviter la population ou en tout cas les habitants à pouvoir se renseigner sur ce que l'on a mis en place déjà depuis plusieurs années. Ce sont les rencontres au niveau des espaces naturels sensibles, les rendez-vous nature que l'on appelle, et qui sont mis en place sur l'ensemble du territoire, donc départemental, dans les différents espaces naturels sensibles. Chaque année, en fait, on invite des acteurs, hein, que ce soit collectivités, associations, etc., à nous proposer des actions de sensibilisation de la population à l'intérêt de préserver la biodiversité. C'est pas qu'une affaire c'est une affaire d'équilibre, je dirais, au niveau naturel, mais aussi d'équilibre dans son cadre de vie et dans toute cette interaction qui peut y avoir entre les espèces, mais aussi entre l'eau, entre les climats et qui génère sur le climat. Et donc ces événements, en tout cas ces rendez-vous nature, qui sont portés par des associations, ça peut être dans le cadre d'un atelier théâtral, ça peut être au niveau du sport. L'intérêt, c'est de pouvoir amener, je dirais, le citoyen à bien prendre conscience de l'intérêt de préserver au quotidien la biodiversité. Et c'est vrai qu'il faut, bon, ces espaces naturels sont un peu plus riches, ces espaces naturels sensibles, mais au quotidien, on doit aussi être attentif pour préserver cet équilibre et faire en sorte. Et les rendez-vous nature sont un excellent moyen de sensibiliser à cet intérêt-là. Vous pouvez y participer tout au long de l'année, c'est gratuit, on y va en famille, enfin voilà, mais on peut se renseigner. De toute façon, chaque année, on édite un fascicule qui nous redonne à la fois les actions, les rendez-vous, les lieux, etc., de l'ensemble de ces rendez-vous nature. Mais c'est un moyen de sensibilisation. Et c'est vrai que il faut que chacun prenne conscience qu'il a une responsabilité, et que c'est toute cette politique de petits pas que font les uns et les autres où on arrive en fait à avoir de très bons résultats.
Et ben le message est passé. Merci beaucoup Marie-Jo Hamard, vice-présidente en charge de la transition écologique. Carole me tend hors antenne qui nous accompagnait, le site internet du coup à retrouver sur nature.maine-et-loire.fr pour tous les rendez-vous nature en Anjou dont on avait parlé dans le podcast En balade avec Camille. Merci beaucoup aussi François Le Tourmi, technicien rivière et DPF. On entendra parler de toi à l'occasion d'un reportage avec Pensée Locale. Nolwenn, on se quitte rapidement, je crois. Hein.
Exactement, on va se quitter avec Tonton Albert et sa bouteille aux trois quarts vide. Nous, demain, on sera avec le quai. Et bah, moi, du coup, je vous dis à demain et topette. Alors, dis-moi, Tonton, il y a du nouveau à Saint-Rémy-la-Varenne ?
Ah, tu avoueras que voici un moment que je ne t'avais pas parlé de mon joli village de Saint-Rémy-la-Varenne. Mais oui, Nolwenn, il y a du nouveau à Saint-Rémy et en même temps du très ancien. Tu vois, c'est le paradoxe de la ruralité, passé, présent, si télescope, quand le futur ne s'y pointe pas en embuscade.
Tonton, est-ce que tu peux te montrer un peu plus clair ? Je suis pas certain que les gens qui nous écoutent ont très bien saisi ton charabia temporel.
Bon, alors voilà de quoi il est question. En ce moment, dans la rue principale de Saint-Rémy, il y a des travaux. Tu me diras, des travaux, il y en a partout. En tout cas, à Saint-Rémy, on remplace le réseau d'assainissement qui n'était pas en très bon état. Par endroits, il devenait aussi étanche qu'une passoire, d'où la nécessité d'effectuer lesdits travaux. Sauf que...
Vous êtes tombé sur un os ?
En fait, sur plusieurs. Oui, un bon paquet d'ossements humains attendait tranquillement qu'une pelleteuse s'en vienne leur apporter un grand bol d'air du 21e siècle. Pour faire bon poids, on a aussi déniché un sarcophage tout près de l'église de Saint-Rémy. Il était temps que ces gens qui roupillent probablement depuis le Moyen-Âge sachent enfin qu'il était temps de refaire surface. Bon, tu vas dire que je suis jaloux, parce qu'avec mes insomnies, je n'ai pas besoin d'une pelleteuse pour être réveillé au milieu de la nuit, un simple moustique suffit. En tout cas, cette histoire de cadavre qui n'a rien d'exquis n'arrange pas le quotidien des riverains et encore moins les affaires des commerçants du village, notamment les commerçants qui tiennent boutique dans la rue principale.
Parce qu'évidemment, avec ce genre de découverte, les travaux s'arrêtent.
Eh oui, désormais, si je puis dire, c'est temps mort. Si encore on avait fait cette macabre découverte au moment d'Halloween, ça aurait pu au contraire créer de l'animation dans le village. Une citrouille ou deux autour du sarcophage et c'était gagné. On aurait même pu organiser des veillées et à la lumière d'une chandelle lire du Edgar Poe ou même crâne au creux de la main rejouer Hamlet. Mais au lieu de ça, on attend non pas le Messie mais la visite de la DRAC.
La Direction Régionale des Affaires Culturelles.
Tout juste, car c'est bien sûr la DRAC qui va statuer sur l'importance archéologique de la découverte et par voie de conséquence sur le temps pendant lequel les travaux vont rester en pause. Et tu vois, Nolwenn, je suis fasciné de constater qu'une personne morte voici des siècles puisse encore être capable de pourrir la vie des gens d'aujourd'hui qui, petit 1, ne sont pour rien dans ces malheurs de défunts d'un autre temps, petit 2, ne savent même pas qui elle est, cette personne qui dormait sous les canalisations du tout à l'égout. En gros, on n'a pas eu le tuyau qu'elle était là. Bref, je suis enclin à penser que cet individu était déjà de son vivant un sacré fauteur de troubles. Car, si tu considères juste mon modeste exemple, moi, je ne casse les pieds que de mes contemporains. Et encore, j'y vais mollo.
Ne sois pas aussi optimiste. Après ta mort, tu continueras peut-être à faire suer des gens qui n'auront jamais écouté tes bouteilles aux trois quarts vides sur Radio G. Et il suffira qu'on fiche un coup de pelle sur ton cercueil qu'on aura mal rangé. Et paf, malgré ton sommeil éternel, tu arrêteras un quelconque grand projet inutile.
En gros, tu es en train de me dire qu'il faut obligatoirement m'incinérer. Bien dispersé, votre tonton Albert n'embêtera plus personne. Mais il y a tout de même quelque chose qui me chiffonne dans cette histoire à Saint-Rémy.
Et quoi donc ?
Eh bien, au moins en théorie, avant de donner le moindre coup de pioche sur un chantier d'une certaine importance, la municipalité est censée prévenir la DRAC en amont des travaux. Précisément, afin d'évacuer les risques de mettre à jour des vestiges archéologiques. Et ne me dis pas, Nolwenn, que lorsque tu te penches au-dessus d'une tranchée, tu as le vestige.
Tonton !
Oui, bon, ça m'a échappé. Donc, la DRAC, prévenue ou pas en amont des travaux, mystère et catafalque. On ne parvient pas à obtenir l'information. Il faut tout de même reconnaître qu'il n'y a pas besoin d'être grand clerc pour imaginer qu'à proximité d'une église, il y ait de fortes probabilités de trouver des cercueils, étant donné qu'autrefois, les inhumations s'effectuaient aux abords immédiats des églises quand ce n'était pas dedans. C'est bien plus tard, notamment pour des raisons sanitaires, que l'on a enterré les défunts à la périphérie des patelins. De là à penser que cette donnée culturelle a rapidement, elle aussi, été enterrée, il n'y a pas l'ombre d'un crucifix. Autre notion enterrée, FISA, l'idée d'un dédommagement de la part de la municipalité de Brissac-Loire-Aubance. Les commerçants du village, alors qu'ils sont fortement impactés par des travaux qui n'en finissent pas. Les bagnoles ne circulant plus dans la rue principale, il n'y a que de rares piétons, pas trop frileux, qui se rendent à l'épicerie de Charlène ou viennent déguster une pizza chez Yann et Laurence. Je ne sais pas si c'est la proximité de l'église, mais la mairie renvoie nos commerçants essentiellement vers de la contrition. Souffrez en silence, les travaux, c'est pour le bien de tous. Quant à l'indemnisation pour les pertes de chiffre d'affaires, elle arrive sous la forme de magnifiques échos de langue de bois. Dans le style, ah, nous sommes bien conscients des difficultés que vous rencontrez et croyez bien que nous faisons tout pour soutenir les commerces de proximité. Si ces travaux avaient eu l'envergure de ceux du tramway à Angers, nous aurions bien sûr pu dégager un budget. Pour vous la faire courte, pardon, on n'est pas loin des applaudissements de soignants à 20h par temps d'épidémie. Ça ne coûte vraiment pas cher. Autre détail aussi savoureux qu'une pizza préparée par le Yann de notre village, la déviation. Car tu t'en doutes, Nolwenn, qui dit route principale barrée dit déviation. Or, où passe-t-elle la déviation? Eh bien, dans un lacis de rue étroite où déjà deux vélos ont du mal à se croiser. Et on y fait passer gaillardement des bagnoles dans les deux sens et l'inconséquence des automobilistes pressés fait le reste, à savoir un sacré foutoir où le piéton devient un gibier. On ne s'étonnera pas ensuite de voir le citoyen exprimer de la défiance devant ses élus. Les gens sont d'une ingratitude, Nolwenn.
J'ai troqué mes clics et mes claques contre des cloques et des flaques. Mon sac à dos pour oublier qu'avant c'est toi qui me pesais. Ce qui m'emmène, ce qui m'entraîne, c'est ma peine plus que la haine.
C'est tout.